France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
Paris, capitale des artistes en exil, Picasso, Maria Cazares y attendaient la fin de la guerre d'Espagne, Kenny Clarke ou Bud Powell y fuyaient le racisme de l'Amérique d'alors et des artistes du monde entier y ont désormais un refuge, l'atelier des artistes en exil. Bonjour Judith Depaul.
Bonjour.
Vous êtes actrice, auteure et metteur en scène et cofondatrice de l'atelier des artistes en exil dont vous êtes Yacouba Konaté. Bonjour.
Bonjour.
Chanteur, compositeur ivoirien, merci à vous deux d'avoir été avec nous. Judith Depaul, il faut d'abord nous emmener dans cet atelier des artistes en exil. À cette même table, la semaine dernière, le philosophe Guillaume Leblanc, qui travaille sur l'hospitalité, proposait de recenser partout en France les logements vacants pour en faire des lieux d'accueil, des sans-abri et des demandeurs de refuge, c'est l'expression qu'il emploie. Et je crois que c'est justement le cas de l'immeuble que vous occupez dans le nord de Paris.
C'est un lieu de travail effectivement où tous les artistes en exil peuvent venir travailler, toutes disciplines confondues.
Mais à l'origine, c'était un immeuble vide, en tout cas voué à la destruction.
C'est ce qu'on appelle un lieu intercalaire, c'est-à-dire qui est bientôt voué à la démolition.
Qui vous a mis à disposition cet immeuble alors ?
Le propriétaire, et ça s'est fait par le biais de Emmaüs Solidarité.
Alors faites-nous une visite guidée de pièce en pièce. Qui rencontre-t-on ? Est-ce qu'il y a des œuvres partout, des outils, des instruments de musique, décrivez-nous les lieux.
Alors on arrive, en face de l'ascenseur, vous avez une pancarte qui vous souhaite la bienvenue avec un accueil et puis vous rentrez, alors c'est un palier, enfin un étage en deux parties, donc dans la première partie vous rentrez, vous avez la salle de classe qui est un des cours de français qui ont lieu tous les matins. Ensuite vous arrivez dans ce qu'on appelle la salle de convivialité où chacun peut se retrouver, manger, aller sur internet, juste discuter, se poser. Ensuite un lieu d'accueil où là on rencontre les artistes pour la première fois, on répond à leurs besoins, on identifie ce dont ils ont besoin. Et puis suit des ateliers pour les plasticiens, les écrivains et des studios de répétition pour la danse, la musique et le théâtre.
Et pour les plasticiens, pour les sculpteurs, il y a des œuvres partout déjà. Vous avez été investi, vous êtes un petit musée.
On essaye de rester relativement neutre pour que chacun puisse trouver sa place, mais évidemment dès qu'on rentre dans les ateliers, c'est foisonnant et il y a des œuvres partout.
Alors on s'attarde deux secondes dans cet accueil. Vous disiez qu'il y a une salle où vous accueillez les artistes. Qui sont les artistes qui frappent à votre porte ? Déjà, est-ce qu'ils frappent à votre porte ou est-ce que vous allez les chercher, les repérer peut-être pour certains d'entre eux ?
Alors, nous avons commencé évidemment par les repérer. Et puis maintenant, en fait, précédemment, je travaillais avec Ariel Sipel dans un lieu qui s'appelait Confluence, dans lequel on s'est intéressé aux artistes syriens en particulier. Et donc, de fil en aiguille, en rencontrant des artistes en exil, on a constitué comme ça un espèce de répertoire d'artistes qui étaient sur le territoire français. Puis ça a contaminé d'autres communautés que la Syrie, en faisant aussi des recherches sur Internet, en écoutant ce que les gens de la profession disaient, de personnes qui étaient arrivées. Et puis maintenant, ça se fait tout seul. Les artistes cooptent d'autres artistes, les médias font leur rôle. Et puis dès qu'on travaille avec un avocat, une assistante sociale, un CADA, et qu'ils savent qu'on travaille avec des artistes, alors évidemment, ils nous envoient les artistes qu'ils rencontrent après.
Quand vous dites artistes, ce sont tous des professionnels ?
Alors la question de la définition d'un artiste professionnel est complexe. Si on la regarde du point de vue des filtres français ou européens, c'est difficile de l'appliquer à tous les pays, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes structures que la France, par exemple. Donc il y a des pays qui ont des structures absolument similaires et d'autres dans lesquels l'art est plutôt un art qui se transmet par mimétisme ou lors de cérémonies traditionnelles. Donc il faut faire très attention à ce qu'on entend par artiste. Donc nous, on essaye d'être très ouverts et de bien entendre d'où les personnes viennent. Et donc évidemment, certains artistes pourraient être plutôt catalogués de artistes amateurs éclairés. Mais en même temps, ils viennent de pays où il n'y a pas d'enseignement officiel de l'art et de la culture. Donc il faut faire à chaque fois très attention pour ne pas fermer la porte à des personnes qui auraient vraiment un potentiel très fort.
Et de porte, on en ouvre une, c'est celle du petit studio de musique que vous nous décriviez. On pousse la porte et on vous y trouve presque à coup sûr, Yacouba Konaté. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire en 2010. 2010, c'est le début d'une crise politique qui oppose Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Tous deux revendiquent la victoire à la présidentielle. L'affrontement entre les deux camps fera 3248 morts selon une commission d'enquête nationale. Est-ce que c'est la raison de votre départ ?
Oh, moi, bien avant cela, moi, j'avais déjà quitté le pays. J'étais déjà parti parce que les mouvements ont commencé depuis 2002, depuis le mouvement des rebelles. Et vu qu'il y avait une insécurité vraiment forte à travers tout le pays, donc chacun essayait de sauver sa peau. Voilà, voilà comment je suis parti.
Et vous étiez déjà chanteur et compositeur ?
Non. En Côte d'Ivoire, je peux dire que j'étais à la recherche d'emploi. Et voilà, je pensais même pas un jour être chanteur. Donc moi, c'est pendant mon exil, que étant dans le camp de Choucha, que tout a commencé au fait.
Alors Choucha, c'est en Tunisie où vous transitez par le camp de Choucha, et c'est là que vous allez apprendre à chanter. Comment ça se passe? Vous rencontrez des personnes qui vous apprennent à chanter? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, je peux dire que c'est le destin naturel qui a pris le dessus, parce que c'est venu tout seul. Je peux pas dire que quelqu'un m'a appris à chanter. Et j'étais là, je faisais des rêves. Et pendant ces rêves, je voyais que j'écrivais des chansons. Et quand je me réveillais, les paroles me venaient facilement. Et comme si on me les dictait, donc j'ai commencé à écrire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à monter sur le petit podium qu'on avait dans le camp de Choucha. Et j'ai commencé à chanter.
Comment vous êtes arrivé en France en 2016?
Bah, il a fallu que je retourne en Libye, traverser la mer pour arriver en Italie, et j'ai été aidé par des citoyens français pour pouvoir gagner Paris. Voilà.
Pardon de vous poser cette question un peu difficile, mais je me rappelle un documentaire de Raphaël Kraft à bord de l'Aquarius qui s'approche d'une navigation en train de sombrer, et il raconte que les personnes qui sont dans ce bateau sont en train de chanter. Vous avez chanté dans ce bateau?
Bon, moi, concrètement, d'abord le 7 décembre 2015, je venais de sortir d'une prison d'abord, troisième prison en Libye, et on m'avait jeté en mer. J'ai été rattrapé par les soi-disant marins libyens, et j'ai été enfermé encore à Zawiya, et ça, c'était ma dernière prison. Le jour où j'ai embarqué, je venais de sortir de la prison, là j'étais beaucoup fatigué. Et pendant tout le voyage, moi je dormais. Mais quand j'ai vu le grand bateau, comme on le dit, j'avais une lueur d'espoir, j'étais très heureux. Et puis bon voilà, d'autres chantaient, mais moi, pleurais parce que j'étais faible au fait. Voilà.
Alors vous arrivez en France, vous arrivez à Paris, comment vous entendez parler de la maison des artistes en exil?
Bon, il y a cette dame, Sophie Bachelier, qui avait fait un documentaire sur moi avant, en 2013, en Tunisie. Et c'est elle, grâce à elle, que j'ai pu bien croiser Judith Dépaule. Et à travers ça, le premier jour que j'ai croisé Judith Dépaule, tout est parti à partir de là. J'ai su qu'il y avait mon bonheur entre ses mains.
Dans le 18e arrondissement de Paris. Alors, vous fondez le groupe Wari avec Wally Sao, oui, et des musiciens français. Vous nous chanteriez une chanson a cappella?
Oui, comme vous voulez, si vous voulez.
Ah ben oui, on veut.
Bon, je vais chanter, c'est la chanson de La Traversée de la Mer. J'ai intitulé Lampa Lampa Passenger. Lampa Lampa, c'est le bateau de fortune que les immigrés empruntent pour rentrer en Italie. Am Lampa Lampa Passenger. Bros, wahala day, lampa lampa passenger, hey, jusukasi benamfaga. Wam lampa lampa passenger, bros, wahala day, lampa lampa passenger, hey, jusukasi benamfaga. Problem de foresee, if police catch you, on t'embarque pour une prison qui n'a jamais eu de nom. Tes problèmes ne font que commencer, t'as pas droit à un avocat. Tu te laves pas, tu ne te brosses pas, et quand tu tombes malade, tu vas mourir. Tu attends le soi-disant policier pour lui demander un morceau de pain. Là, tu dois parler en arabe, et pour ça, tu seras tabassé. Je vous le jure, ça fait pitié, Le jour on doit manger macaroni dans l'eau bouillante. Si tu veux manger, il faut mettre tes pieds. L'esclavage n'est pas fini. Si tu me crois pas, viens en Libye. Ils te font travailler matin au soir. Même Rouba, tu vas pas gagner. Je dis même c'est quel pays ça? Quand tu es propre, la police t'arrête. Pour passer inaperçu, il faut se jouer souvent les fous. Et pour sortir de ce calvaire, tu dois prendre contact avec des corsaires. C'est vautours de marcheurs sans cœur qui vont appeler ta famille. Pour contrôler ton jeton, afin que tu retrouves ta liberté. Tu me parles même de quelle liberté? Ici en Libye, y a pas de liberté. Tu vas de prison à prison, d'esclavage à esclavage. De Zouara, Sabrata, Zawiya, Tripoli, oui. De Benghazi à Sirte, là-bas c'est les barbus. Bienvenue en enfer, l'autre côté c'est vraiment l'enfer. Pour une question de religion, ils vont te couper la tête. Nul n'est parfait ici-bas, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Mwam lampa lampa pasenja, bros, wahala dehe. Lampa lampa pasenja, hey, jesukasi benanfaga. Mwam lampa lampa pasenja, bros. Wahala dehe, lampa lampa pasenja, ey, jusukasi benamfaga, oh, ey, jusukasi benamfaga, oh, ey, jusukasi benamfaga, yeah. Merci.
Merci Yacouba Konaté. Toutes vos chansons racontent l'exil, elles sont toutes sur... Vous êtes ému ou vous avez chaud?
Non.
Toutes vos chansons racontent votre exil.
Bon, toutes mes chansons ne racontent pas toujours mon exil. Il y a des chansons d'amour, des chansons d'espoir et de pardon, de tolérance. Voilà.
Judith De Paul, sur le projet de la Maison en Exil, c'est aussi un projet dans lequel vous invitez les artistes à travailler sur la fabrication du récit. Comment fabriquer, montrer, donner à voir un récit de son exil, de son art et de son art en exil.
Alors c'est une question qui revient souvent, effectivement. Est-ce que l'artiste en exil doit raconter son récit? Alors c'est des choses qu'il faut laisser très ouvertes selon les artistes, afin que l'artiste ne se définisse pas uniquement par le prisme de l'exil. Mais c'est quelque chose qui revient souvent, effectivement, et je pense que dans un premier temps, quand les artistes arrivent, il y a quelque chose vraiment à faire avec cet exil qui est encore là très, très clairement, avec ce passé qui vous envahit très souvent. Donc effectivement, la question du récit est très importante et elle peut se manifester de façon différente. En fait, on peut l'appliquer à tous les arts. Et récemment, effectivement, Lola Kreis et Philippe Ulis ont organisé un workshop autour de cette question-là pour travailler sur comment est-ce qu'on se raconte et comment on raconte l'exil. C'est aussi quelque chose auquel je me suis intéressée dans une forme qui s'appelle « Je passe », pour laquelle j'ai recueilli 14 récits d'artistes en exil, afin de faire entendre aussi au public français quelles sont les raisons profondes qui poussent les personnes à partir et leur faire entendre que c'est toujours un choix très dur et c'est toujours un chemin parsemé d'épreuves et que ça, il faut le prendre en compte dans notre considération des personnes qui sont là et qu'il faut aider. Voilà.
Et c'est un projet qu'on peut qualifier aussi de politique. C'est un engagement que de dire que l'artiste doit pouvoir continuer à exercer son art indépendamment de ce qu'il traverse par ailleurs dans sa vie personnelle, le déracinement, l'éloignement familial et des conditions de vie sans doute difficiles.
Oui, c'est éminemment politique et je dirais même que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que dans certains cas, les artistes qui sont en exil sont les seuls représentants d'une culture qui est en train aussi d'être anéantie ou disloquée dans le pays dans le duquel ils viennent, soit parce que effectivement la guerre est en train de tout anéantir, soit parce que les gouvernements autoritaires ne permettent plus de liberté d'expression. Et ce sont ces artistes-là qui vont permettre de faire perdurer ces cultures. Donc oui, bien sûr, c'est très politique.
Donc vous proposez à ces artistes un accompagnement administratif. Donc tous sont en voie de régularisation ou pas? Ils attendent une réponse pour une éventuelle un statut de réfugié. Où est-ce qu'ils en sont?
Ben, ça dépend des artistes, ouais. Ça dépend de quand est-ce qu'ils sont arrivés. On a des artistes, effectivement, qui sont en cours de régularisation. Certains, ça dépend des communautés, ils ne sont pas tous égaux devant le droit à l'asile. Certains ont déjà même leur statut de réfugié avant d'arriver et certains ont beaucoup de mal à l'obtenir.
Yacouba Konaté, est-ce que vous avez dû rencontrer des agents de l'OFPRA pour une demande de régularisation? Est-ce que vous leur avez chanté qui vous êtes? Puisque c'est, je crois, un encouragement de la maison, de l'atelier des artistes en exil. Que de se chanter.
Bon, moi, bien avant d'arriver en France, j'avais déjà mon statut de réfugié depuis 2011. Donc, une fois ici en France, les choses sont allées un peu plus vite. Je pense que toute la souffrance vécue en Libye ont été récompensées. Donc, voilà, moi, ça va, mais ma situation est régularisée, j'ai un boulot et ça va.
Vous faites quoi?
Bon, je suis opérateur vidéo à Paris-Gare-Montparnasse.
Et votre carrière artistique, alors, où en est-elle? Qu'est-ce que l'atelier des artistes en exil vous a permis peut-être de rencontrer des réseaux?
Bon, l'atelier des artistes en exil, je le dis tout le temps à Judith Dépaule. Quand je suis pas bien dans ma peau, je gagne refuge à l'atelier des artistes en exil. C'est mon monde. Une fois je suis là-bas, l'inspiration vient, je me sens à l'aise. Et voilà, je compose. L'atelier des artistes, c'est mon studio, c'est mon public. Et parce que c'est là-bas d'abord que je fais les tests. Quand c'est bon, comme on le dit chez nous, quand c'est bon, on peut aller croiser d'autres publics. Et on a des tournées, je bosse, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'aime. Ce qui fait de moi ce que je suis, c'est la musique. Voilà.
Judith Dépaule, est-ce que vous profitez aussi, est-ce que vous puisez aussi dans votre propre expérience d'auteur, metteur en scène, comédienne, pour faire rencontrer les uns et les autres, pour tout simplement enseigner ce métier d'artiste et comment on l'exerce en France, entre guillemets?
Oui, bien sûr, je me sers de mon expérience et de la connaissance des réseaux professionnels que j'ai, mais aussi de mon expérience d'artiste. Je pense que c'est très important d'entendre les besoins d'un artiste vu par un artiste, parce qu'il y a des choses qu'on n'a même pas besoin de les discuter, elles sont là d'évidence. Et bien sûr, je me sers de mon réseau et j'essaye de l'élargir aussi, puisque comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes multidisciplinaires, donc il faut être à l'affût de tout type de contact.
Et vous faites en sorte que vos artistes se produisent en public?
Et on fait en sorte, puisque c'est un peu même la mission première de l'atelier, que les artistes aient des moments de visibilité quels qu'ils soient. Et donc on organise des événements avec beaucoup de structures, mais on organise aussi nos propres festivals, dont Vision d'Exil, qui va avoir lieu pour la seconde fois en novembre prochain, du 2 novembre au 2 décembre, avec deux endroits en particulier, le Musée national de l'histoire de l'immigration, le Palais de la Porte Dorée, du 2 au 11 novembre, et ensuite du 16 au 30 à la Villa Radet, qui est sur le site du 18e de la Cité internationale des arts. Et donc pendant un mois, on va organiser plein de choses, des expositions, des concerts, des spectacles, des projections, des rencontres.
Et cette électro planante, c'est celle d'un de vos artistes aussi, Wael Alkak?
Oui, c'est Wael Alkak qui est donc syrien et qui fait plein de concerts où il mixe sa propre musique. Et c'est un travail magnifique qui soulève les salles et qui fait danser. Thank you.
Yacouba Konaté, vous le connaissez bien, où est l'Alka? Qu'est-ce qu'entre différentes nationalités, vous avez des échanges, des contacts? Comment vous vous enrichissez les uns les autres?
Oh, cette expérience, je l'avais déjà vécue dans le camp de Choucha, là où il y avait plusieurs communautés, donc à la télé des artistes en exil. Une fois que je suis là-bas, je suis en famille. Il n'y a pas, c'est pas une question de dire, ben, tel n'est pas de la Côte d'Ivoire ou bien il n'est pas africain. Bon. Là-bas, je me sens à l'aise, il y a la communication qui passe entre nous et on répète souvent aussi ensemble. Lui, on a déjà répété ensemble, on a déjà fait quelque chose de bon ensemble aussi.
Merci à vous deux d'être venus ce matin dans les studios de France Culture, Judith Depaule et Yacouba Konaté.
Merci.
Merci beaucoup. Donc on rappelle que le festival Vision d'Exil, où nous pourrons donc voir, regarder, peut-être toucher les œuvres et entendre bien sûr des artistes en exil de votre atelier, seront donc organisés du 2 novembre au 2 décembre prochain et notamment au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.